aller plus vite. Vous allez garder le mien qui ne marche pas, et moi je vais prendre le vôtre.
Ça fait deux fois que vous faites ça.
Oui.
Vous m'avez déjà pris mes chaussures, maintenant mon vélo.
Bidon réglable, en hauteur.
Les lettres affranchies à 2 centimes seront acheminées à Vélocipède.
Le nez dans le guidon, sur Radio B.
Quand on partait sur les chemins, à bicyclette.
Bonjour à toutes et tous. Heureux de vous retrouver au départ de la 42e étape du nez dans le guidon, votre rubrique consacrée au cyclisme. Loin des courses cyclistes traditionnelles, se déroulent des compétitions d'un genre particulier. Des courses qui peuvent durer 500 km, 800 ou parfois aussi plus de 1000. Pratiquer ce cyclisme d'un autre genre rassemble de plus en plus d'adeptes et sa popularité va grandissante. On parle d'ultracyclisme ou d'ultra-endurance. Nous avons dans l'un un jeune pratiquant qui brille dans cette discipline. Hugo Malfroy nous rejoint et se saisit du micro. Bonjour Hugo.
Bonjour Alain.
Alors tu t'es un peu éloigné du cycliste traditionnel, du moins en tant que compétiteur, pour t'orienter vers cette spécialité qu'on nomme ultracyclisme. C'est quoi l'ultracyclisme ?
Ouais, c'est ça. Bah, ça fait un an, on va dire, que je pratique l'ultra-distance. Donc on va dire que c'est une discipline très particulière. C'est long, en fait, pour moi, ma définition de l'ultracyclisme, c'est quand ça passe 24 heures, en fait, qui est une nuit dehors, on va dire. Et ouais, le principe, c'est de partir en autonomie ou en semi-autonomie. On a nos bagages, nos sacoches. On se gère, en fait, on gère la nourriture. C'est à nous de tout gérer. On emporte tout sur nous et selon le parcours, si c'est un défi perso, ben, on rallie un point à un autre. Et si c'est une course, bah voilà, on suit une trace qui nous est imposée. Et il faut s'accrocher.
Oui, parce que voilà. Ça, plus qu'une compétition, hein, plus qu'une compétition, on va dire que ça ressemble plus à un défi finalement.
Oui, voilà. Enfin, là, la différence avec les courses, on va dire, traditionnelles, c'est qu'on ne se bat pas contre les autres, on se bat vraiment contre nous-mêmes. C'est la principale difficulté, ouais, c'est vraiment d'aller puiser au fond de nous-mêmes, de résister. C'est comme ça que je le vois, parce qu'au final, on ne voit pas grand monde pendant ces courses-là.
Ouais, dans les grandes lignes, on va parler trop dans les détails, mais il y a une réglementation ?
Oui, voilà. Bah là, la course que j'ai faite, notamment la dernière, là, la réglementation, en fait, on n'a pas le droit de prendre les roues, on n'a pas trop le droit non plus de rouler avec des personnes, pas le droit support extérieur, donc pas le droit aux supporters sur le bord de la route ou quoi. On est vraiment dans notre course et dans l'aventure, quoi. Donc,
Et puis, on pratique avec un vélo traditionnel. Est-ce que ça peut se faire en VTT ?
Bah, tout dépend de la course. Hein. Après, ça dépend du règlement de la course. Mais oui, c'est du vélo traditionnel. Hein. Et il vaut mieux parce que 1000 km en VTT sur route...
Ouais, il faut être balèze. Ouais.
Voilà.
Ouais, donc, c'est vraiment du défi. Il y a un défi physique. Mais il doit y avoir un défi mental.
Ouais, clairement. Hein. Surtout que, on est à l'abri de rien, en fait. On sait quand on part, mais voilà, on sait qu'il va se passer des choses pendant la course, mais on ne sait pas quoi. Nos coups de mou physiques ils peuvent arriver dès le début, ça peut tout changer, en fait. On a un plan qu'on établit avant de partir, en théorie, mais voilà, celui-là, il change tout le temps, quoi. Il y a plein de petites surprises pendant la course, la course ou le défi, hein, ça dépend.
Et est-ce qu'il y a un côté ludique ? Le contact avec la nature, par exemple.
Ouais, franchement, c'est magnifique. Après, voilà, pour moi, il faut être vraiment passionné pour prendre du plaisir là-dessus. Parce que quand ça fait des heures et des heures, voire même des jours qu'on est sur son vélo, il y a énormément de douleurs. Donc, pour prendre du plaisir, faut être passionné. Et quand on voit le lever du soleil en pleine nuit, les animaux, on ne peut que profiter. Et il faut penser à ça, quoi. Pas aux douleurs extérieures et... Faut pas se dire, il reste tant de kilomètres, même si je le fais. Hein.
Oui, c'est humain. Hein.
Oui, voilà, c'est ça.
Il y a quelques semaines, tu t'es rendu en Belgique pour disputer une épreuve particulièrement exigeante qui faisait plus de 1000 kilomètres.
Hein. Oui, c'est ça. Donc,
ça se passait sur les routes des grands classiques belges. Hein.
Exactement, oui.
Liège Bastogne, le Tour des Flandres, les monuments de légende, tout ça.
Oui, donc c'était vraiment magnifique. C'est Race Across Belgium, le nom de la course. Il y avait 1000 kilomètres pour un peu moins de 10 000 mètres de dénivelé. sachant que, je le précise, mais 10 000 mètres de dénivelé, c'était que des talus, quoi. Donc tous les monts qu'on peut voir en Belgique sur les, bah, sur les courses mythiques, Tour des Flandres, Liège-Bastogne-Liège, la Flèche Wallonne, tout ça, vraiment les pavés, c'était... Donc c'était vraiment la principale difficulté là-bas, ouais. En plus de la pluie qu'on a eue pendant... Enfin, personnellement, je l'ai eue pendant 700 km. Et ça, c'est vraiment mon pire ennemi pour beaucoup de personnes, mais vraiment, je déteste. Donc, ouais, une sacrée course, ouais.
Et donc, t'as pas couru plus de 1000 bornes, là. Je crois que ça se fait en plusieurs boucles.
Ouais, en fait, on a un départ, donc il y a une base de vie. Et il y avait une première boucle de 500 km. Donc, retour à la base de vie. Là, c'était l'avantage, parce qu'on pouvait retourner à la même base de vie. Une deuxième boucle de 200 km. Et enfin, pour finir, 300 km, la dernière. Ce qui faisait, moi, au total, j'ai eu 1030 km. Et voilà, après, on gère. En fait, on revient à la base de vie. On peut laisser un sac d'affaires. Et l'organisation propose des repas chauds, des douches et des petits matelas si on veut se reposer pendant la base de vie. Mais vraiment, on gère comme on veut. Donc, c'est pour ça que là, c'est de la semi-autonomie parce que il y a quand même cette aide-là de l'organisation qui nous met à disposition une base de vie, quoi.
C'est ça, niveau récupération sommeil, donc on va dire ça se passe pas trop mal. J'ose pas dire ça se passe bien, mais pas trop mal.
Bah ouais, c'est tant mieux d'ailleurs qu'ils proposent ça, parce que passer plus de 24 heures sans dormir, ça devient compliqué. Il y a un gros risque de s'endormir sur le vélo. Et voilà, après, sur 1000 km, bon, les spécialistes de l'ultra diront que c'est le début de l'ultra. Il y a des courses bien plus longues, mais c'est déjà vraiment costaud. Et voilà, moi, j'avais établi un plan pour le sommeil où je ne voulais pas dormir plus d'une heure et demie pendant les 1000 km. Et au final, bah, les éléments extérieurs ont fait que je me suis retrouvé au kilomètre 500 très, très fatigué, avec une grosse envie de dormir depuis le début de la course, quoi. Et voilà, donc j'ai dormi 4 heures et c'est reparti.
La première boucle, elle passait du côté de Namur, je crois.
Oui, exactement.
Vous êtes monté à la Citadelle ?
Ouais, on est monté à la Citadelle. Moi, j'y suis passé de nuit, donc vraiment sympa quand même.
Ouais, c'est grandiose, spectacle merveilleux là-haut.
Ouais.
Et puis donc, au final, tu obtiens un bon résultat. Hein.
Ouais, j'ai terminé 14e en 64 heures. Donc voilà, après, c'était ma première course ultra avec un dossard. En fait, j'avais déjà fait des défis l'an dernier d'ultra distance, mais là, avec un dossard, c'était la première. Bon, c'est un peu en dedans de ce que j'avais espéré, mais au vu des conditions de la course... Voilà, je peux qu'être satisfait avec le recul d'avoir déjà terminé cette course, parce que c'était vraiment pas simple de terminer. On est quoi, moins de 30 à avoir terminé la course quand même.
Oui, mais justement, au niveau endurance, c'était quand même balèze, parce que je me suis permis d'aller sur le site de l'organisateur.
Oui.
La course était trop courte pour toi, parce que je vois, au départ, tu étais pointé 18e, 22e, 24e. Après, tu es remonté, plus le temps s'écoule, pour arriver 14e. Il y aurait eu 200 km de plus, c'était le podium.
Bah ouais, à la base, en fait, moi, j'avais peut-être un objectif un peu ambitieux. Bon, j'avais imaginé déjà des conditions parfaites, on va dire, au niveau de la météo. Et j'aurais bien aimé aller chercher les 48 heures. Et bon, là, j'ai mis bien plus de temps, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, la première nuit, donc au bout de quelques heures de course, j'ai direct ressenti un gros besoin de dormir. Donc, c'est étonnant, mais c'est peut-être un peu la fougue de la jeunesse aussi de me dire faut pas que tu dormes maintenant, ça vient de commencer, les gros de devant vont partir, ce sera terminé pour moi, quoi. Donc, j'ai lutté jusqu'au kilomètre 500 en étant fatigué, en ayant passé vraiment une journée sans sensation. Et là, donc, j'ai dû revoir mon plan et dormir plus longtemps. Et c'est vrai qu'après, sur les 500 derniers, bah là, j'ai retrouvé du plaisir déjà. Des sensations, et oui, je me suis bien mieux senti sur la fin que le début. Après, voilà, le nombre de places remontées, c'est aussi dû au gros nombre d'abandons qu'il y a eu, parce que la pluie a fait énormément de dégâts quand même.
Oui, c'est ça, c'est un peu le chantier, mais
ouais,
prêt à y retourner.
Oui, cette course-là, vraiment, bon, on a vraiment pris cher, mais moi, elle m'a vraiment attiré, et j'y reviendrai, ça c'est clair.
Voilà, il fera beau l'année prochaine.
J'espère.
Voilà, super. Ouais. Notre invité du jour, Hugo Malfroy, est un spécialiste des courses cyclistes ultra-distance. Mais pas que. En effet, Hugo, tu es également entraîneur au sein de la structure Talent 01 du comité départemental de l'Inde cyclisme.
Oui, c'est ça. Ouais. Donc depuis... Là, je suis en formation, en fait, en alternance. Je fais un DGEPS, donc dans l'entraînement, dans la direction sportive. Et donc, je le fais au comité de l'Ain. Et il y a le pôle espoir, donc talent 01, au sein du comité. Et donc là, ouais, j'interviens. J'épaule Yann Richard, donc le CTD.
Conseiller technique départemental. Nos éditeurs.
Exactement. Donc, je l'épaule là-dessus. Dans l'encadrement des groupes cadets ou juniors, dans l'entraînement aussi, dans la planification des entraînements et dans l'accompagnement des courses aussi.
Ouais, ça se passe bien, quoi.
Ouais, c'est un vrai plaisir, ouais.
Puis, tu as aussi un diplôme au niveau diététique, nutrition sportive.
Oui,
beaucoup
c'est ça.
De cordes à ton arc. Hein.
moi, c'était ma vision des choses. Ouais. Donc, mon projet professionnel, on va dire, c'était d'être nutritionniste du sport. Donc, ça s'est fait il y a 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus. J'ai validé un bachelor en diététique et nutrition du sport. Et là, donc, ouais, le but, en fait, pour moi, c'était d'avoir les deux cordes à mon arc, comme tu dis, d'être nutritionniste et entraîneur, pour apporter un aspect technique plus global à l'athlète, quoi. Pour moi, je trouve ça important, en tout cas.
Ah ouais, ça va être un métier passionnant qui s'ouvre à toi.
Ouais, c'est vraiment un métier passion. Ouais,
et puis, ô combien utile aussi pour les petits jeunes.
Bah oui, voilà, maintenant, moi, je fais de la compétition, mais j'apprends aussi à donner la priorité aux jeunes, et c'est aussi un réel plaisir, parce que, bon, voilà.
Et donc, du plus difficile au plus basique. Tu as aussi, durant le mois de juin, encadré une formation de vélo-école pour des personnes qui découvrent la pratique du vélo.
Oui, c'est ça. Donc, c'est vrai que là, moi, j'ai l'habitude d'être avec le pôle espoir, donc des juniors qui nous font bien mal aux jambes à l'entraînement, et pas que, du coup. Parce que, voyons, avec Yann Richard, on a encadré des séances pour des femmes venant des quartiers prioritaires, donc tout simplement à leur apprendre à faire du vélo. C'est le même principe qu'une école du vélo, en fait. Mais voilà, pour un public différent des jeunes qu'on a d'habitude, et c'est une nouvelle expérience qui est vraiment enrichissante. Et de voir ces personnes-là, en fait, venir avec de la motivation, repartir avec le sourire, comme le disait Yann, en fait, c'est la meilleure des récompenses pour nous, ouais.
Oui, c'est ça, parce que ces dames, dont certaines n'avaient jamais touché un vélo, au fil des séances, on a vu des beaux progrès quand même.
Ouais, exactement. Quand elles arrivent, c'est vrai que, en fait, on reprend vraiment de la base, quoi. Qu'est-ce qu'un vélo, comment ça fonctionne. Et au final, après les 8 séances, on peut les emmener dehors en lieu ouvert, et ça, c'est magnifique.
Voilà, donc malgré ton très jeune âge, tu connais le vélo quasiment de A à Z déjà, hein. Moi, je suis impressionné, là.
Moi, j'essaye de voir un peu tout ce que je peux voir, d'avoir le maximum d'expérience possible, en fait, pour que, voilà, une fois que je serai lancé dans la vie active, on va dire, je peux répondre à toute question, on va dire. Et ça, c'est ma vision des choses. Voilà, il faut avoir vu énormément de choses pour apporter, pour être un bon professionnel, on va dire.
Ouh là là. Encore les aiguilles de la pendule qui sont bien rapides aujourd'hui. Mais avant de nous séparer, tu souhaites ajouter quelque chose? Peut-être nous apprendre ton futur défi?
Ouais, j'ai deux choses à rapporter, on va dire. Donc déjà, le prochain défi, ça sera dans 2 semaines et demie. J'ai un ultra en VTT, donc en duo. Là, j'aurai 260 km et 10 000 mètres de dénivelé. Et donc, le challenge, on va dire, c'est d'enchaîner 2 semaines après avec un biking man qui fera, lui, 1000 km aussi et quasiment 20 000 mètres de dénivelé. Donc, ça approche, là, il va falloir récupérer. Et la deuxième chose qui est encore plus importante pour moi, c'est de remercier, en fait, Yann Richard et tous les membres du comité de l'Ain qui me font vraiment confiance dans ce que je fais avec eux. Parce que pour moi, c'est vrai que l'alternance se passe très bien et j'apprends vraiment énormément de choses aux côtés d'Yann, qui fait énormément de choses pour moi, et ça, voilà, j'en suis vraiment reconnaissant, et j'en profite pour le remercier, pour même Alain, même toi, donc merci à tous. Voilà.
Yann le mérite, ouais, c'est sûr. Ouais.
Exactement.
Merci de ta visite, Hugo. Passionné qui nous a passionnés, continue.
Avec plaisir.
Bonne journée,
merci.
À bientôt.
Radio B.
L'actualité, c'est aussi le plaisir pour moi, pour nous, de saluer la superbe performance réalisée par Maxime Jarnet lors du récent championnat de France. Ce jeune coureur, qui a débuté au club de Châtillon-sur-Chalaronne, est aujourd'hui professionnel au sein de l'équipe Van Rysel Roubaix Lille Métropole. Il vient de se classer 10e d'un championnat national d'anthologie qui restera assurément dans les mémoires, tant le parcours fut difficile et les conditions climatiques pénibles. Bravo Max. Maxime Jarnet, qu'on aura plaisir à retrouver et à applaudir sur les routes du Tour de l'Ain du 31 juillet au 2 août prochain. Venez nombreux l'encourager.
Radio B. Radio B.
Agenda, l'été qui s'installe nous annonce de belles courses ces prochaines semaines. Par exemple, le dimanche 16 juillet, le comité cycliste d'Aussure-Bonpont, La Roger-Pinjon, vous donne rendez-vous à Donsure pour une journée complète avec des compétitions hommes et femmes. Ou encore le samedi 5 août qui verra la renaissance du prix de Villereversure. Ah, que de souvenirs! L'été dans l'Ain, c'est aussi le Tour de France. Le vendredi 14 juillet, l'étape reliera Châtillon-sur-Chalaronne au Grand Colombier. Puis le jeudi 20 juillet, arrivée à Bourg-en-Bresse. Souhaitons que cette année, le directeur de l'organisation n'oubliera pas de citer Roger Pinjon, le coureur de l'Ain, vainqueur du Tour 1967. Et dans la foulée du Tour de l'Ain, le Tour de l'Ain du 31 juillet au 2 août, avec la course des cadets en prologue de l'épreuve professionnelle. Justement, restez fidèles à Radio B pour suivre l'émission spéciale consacrée au Tour de l'Ain cadet en direct le jeudi 3 août de 17h à 18h, animée par un jeune étudiant journaliste et cycliste passionné, Adrien Debia Saïd, licencié au Vélo-Club d'Ambérieu. À la radio, bien sûr, et aussi sur notre site www.radio-b.fr, en direct puis en podcast. Ainsi s'achève notre dernière chronique de la saison, que je dédie à notre journaliste Audrey Radondi, elle sans qui je ne serais pas à l'antenne. Au moment de nous séparer, puisqu'Audrey quitte Radio B pour de nouvelles destinées, je ne peux dissimuler une sincère émotion. Merci Audrey, bonne route. Amis auditrices, amis auditeurs, profitez bien de l'été. Belle et agréable journée à l'écoute de Radio B. Les bonnes ondes.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien.